VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique centrale. Cameroun, kamikaze a tué 2 civils en se faisant exploser dimanche à Mora, dans le nord du pays, zone d'opération du groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Le gouverneur de la région, Midiyawa Bakari, a expliqué à l'AFP comment s'est déroulé l'incident.
Le monsieur, ayant arboré maladroitement sa charge, a été aperçu par les membres du comité de vigilance qui l'ont sommé de soulever son habit pour contrôler son torse. Et immédiatement, il a compris qu'il était découvert, il a été mis à nu. Donc immédiatement, il a actionné sa charge. Au final, nous avons eu 3 morts, y compris le kamikaze, et 5 blessés. Donc la vie est hors danger. Profitons également de cette occasion pour appeler les uns et les autres à plus de vigilance et savoir que nous sommes toujours en situation de guerre et que dans ces circonstances, rien ne devrait être négligé.
Le gouverneur de l'extrême nord du Cameroun, Midiyawa Bakari. RDC, au moins 34 civils tués ce week-end par des milices dans l'est du pays où les violences interethniques paraissent s'intensifier sur fond d'instabilité politique. Une milice de l'ethnie Nandé a tué au moins 13 civils Hutus dimanche à Nyanzale, 3 jours après la mort de 17 civils Nandé lors d'un raid d'une milice Hutu dans un village voisin. Samedi, au moins 21 civils et 4 miliciens ont été tués lors d'attaques près de la ville de Beni à 300 km au nord de Nyanzale, selon un porte-parole de l'armée congolaise. Et puis au Tchad, l'année qui s'achève a été marquée par une crise économique et financière sans précédent qui a plongé le pays dans une situation d'incertitude. Pour faire face à la crise, le gouvernement tchadien a pris des mesures d'urgence pour renflouer le trésor public, une décision qui a failli emporter le gouvernement actuel. De N'Djamena, notre correspondant André Kodmajingar.
14 ans après l'exploitation de son pétrole, le Tchad a du mal à payer ses fonctionnaires à terme échus et financer le fonctionnement des services publics, surtout les 2 derniers trimestres de l'année qui s'achèvent. Une tension de trésorerie que les hautes autorités justifient par la baisse du prix du baril du pétrole, alors que les organisations de la société civile parlent de la mauvaise gestion des ressources qui a conduit à cette crise. Ne pouvant plus supporter, les syndicats des travailleurs du secteur public ont déclenché une grève d'avertissement le 8 août 2016 avec service minimum dans les hôpitaux pour exiger le paiement de leurs salaires, mais sans succès. Et c'est dans cette situation de crise de confiance entre les travailleurs et le gouvernement que le Conseil extraordinaire des ministres du 31 août 2016 a pris des mesures d'austérité tendant à réduire les charges publiques afin d'accroître les recettes. Voilà une goutte d'eau qui a débordé le vase. L'Union des syndicats du Tchad, le Syndicat national des anciens et chercheurs du supérieur et la Confédération des syndicats des anciens du Tchad se sont regroupés dans une plateforme pour lancer une grève sèche qui paralyse l'administration depuis plus de 3 mois. Conséquence, les activités scolaires et académiques sont bloquées. Le premier ministre chef du gouvernement, Paimi Padake Albert, a rencontré par 2 fois de suite les responsables de cette plateforme pour leur demander d'observer une trêve sociale de 12 mois.
Trêve qui nous permettrait de travailler ensemble pour résoudre les problèmes auxquels notre pays est confronté et vaincre ensemble la crise économique et financière que l'État traverse.
Barka Michel, l'un des porte-parole de la plateforme de revendication syndicale, répond à l'appel du premier ministre chef du gouvernement en ces termes.
La trêve pour nous, syndicalistes, c'est toute une discussion. Ça ne se décrète pas comme ça. Parce que pendant la trêve, c'est qu'on ne doit pas aller en grève, par exemple. C'est ce que le gouvernement veut, dans la mesure où, pendant qu'on parlait, ils ont appliqué déjà leurs mesures qui ont été à l'origine de tout ce qu'on a vécu. Nous, on leur dit maintenant, suspendez ces mesures-là. Nous ne pouvons pas dire, allons au dialogue et voilà, on coupe les salaires des travailleurs. Déjà un salaire qui ne permet pas aux gens de vivre correctement et en plus, un salaire qui n'est pas payé depuis 2-3 mois.
En rappel, cette situation d'incertitude a failli emporter le gouvernement actuel de Paimi Padake Albert. 22 députés de l'opposition ont initié une motion de censure contre le gouvernement pour refus de communiquer avec le peuple tchadien sur l'état de santé financière du pays, mais aussi lui demander de comptes par rapport aux militaires envoyés sur le théâtre des opérations de guerre à l'extérieur sans l'accord préalable de la représentation nationale. Programmé pour le 17 septembre 2016, les députés du MPS partis au pouvoir se sont entendus pour fuir le débat. Autre fait lié à cette crise, c'est la poursuite disciplinaire du secrétaire général du syndicat des magistrats du Tchad SMT Djonga Arafi devant le Conseil supérieur de la magistrature. Bonne fin de l'année à tous les auditeurs de la VOA. André Kodmadingar Ndjamena pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, Mali, la France a promis de tout faire de concert avec les autorités maliennes pour retrouver et libérer Sophie Petronin, une Française enlevée hier à Gao dans le nord malien. Médecin nutritionniste, Sophie Petronin s'est spécialisée dans l'assistance aux enfants mal nourris au sein de l'association Aide à Gao. Notre correspondant sur place, Boubacar Touré, revient sur le rapt.
C'est devant la porte du centre d'accueil des enfants qu'elle a ouvert au quartier Sosokoira en plein cœur de la ville que le chef de mission au Mali de l'ONG AAG, Association d'aide à Gao, Sophie Petronin, a été enlevée le samedi 24 décembre 2016 vers 17h par des hommes armés à bord d'une Land Cruiser. Aliou Boussou, témoin, nous raconte.
Ils sont venus rapidement et ils l'ont enlevé.
Ils étaient combien?
Ils étaient trois. Ils sont de Tamashek, de couleur blanc. Ils ont pris juste le carré que vous voyez et ils ont monté en haut vers sur la route de Kidal.
L'enlèvement de Dr Sophie a été un coup dur pour les enfants du centre qui ne réclament que le retour de leur maman. Zainabou Walet Mohamed, pensionnaire du centre.
Comme ma mère, parce qu'elle nous aide de la rendre parce qu'on a besoin d'elle. C'est tout ce qu'on cherche.
Intervenant dans le domaine de l'humanitaire depuis plusieurs années à Gao, Sophie Petronin apporte assistance en nutrition à plusieurs enfants orphelins, dont des nourrissons. Les populations de Gao, très tristes, invitent les autorités maliennes à agir vite pour retrouver la mère des orphelins.
Vraiment, ça me fait mal au cœur. Ça fait mal à toute la population de Gao.
Pour l'instant, cet enlèvement n'a pas été revendiqué. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Somalie, des combattants de l'organisation islamiste Al-Shabaab ont abattu dimanche un procureur militaire dans la région autonome du Puntland. Le procureur Abdikarim Hassan Fiodiye a été tué au moment où il sortait de sa voiture devant un restaurant de Bosaso, principale ville de la région. Le groupe Al-Shabaab a revendiqué la responsabilité de l'attaque. L'organisation islamiste a précisé avoir agi en représailles après les condamnations prononcées par la justice militaire somalienne contre des adolescents qui lui était lié. Au Soudan, libération par les autorités de 20 personnes incarcérées depuis novembre pour avoir appelé à des manifestations contre la hausse des prix de l'essence. C'est ce qu'annonce lundi deux partis d'opposition. Le Service national du renseignement et de la sécurité avait arrêté ces deux derniers mois plusieurs dizaines d'opposants ayant critiqué la décision de Khartoum d'augmenter de 30% les prix de l'essence et du diesel et préconisé des manifestations de protestation. Proche-Orient, le gouvernement israélien continue de faire des remontrances suite au vote du Conseil de sécurité de l'ONU vendredi dernier sur la colonisation israélienne en territoire palestinien. Michel Joseph nous en dit plus.
Parmi les diplomates convoqués par le gouvernement israélien pour expliquer le vote de leur pays figure le représentant de l'administration Obama. Pour la première fois depuis plus de trois décennies, les États-Unis n'ont pas usé de leur vote de veto au Conseil pour bloquer le vote de la résolution proposée par la délégation égyptienne. Ce texte exhorte Israël à cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est, et affirme que les colonies n'ont pas de valeur juridique. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré hier soir l'ambassadeur Daniel Shapiro, deux jours après l'adoption à l'ONU, grâce à l'abstention américaine de cette résolution défavorable à Israël. De son côté, le Sénégal a vivement réagi contre la décision d'Israël de rappeler son ambassadeur à Dakar et d'annuler son programme d'aide. Le porte-parole du gouvernement sénégalais, Sédou Gueye, a déclaré que la position de Dakar mérite d'être saluée et, de fait, la communauté internationale salue la position du Sénégal, notamment les pays musulmans, a affirmé M. Gueye sur la télévision publique.
Conflit en Syrie maintenant, au moins 30 civils ont été tués et de nombreux autres blessés dimanche lors d'opérations conduites par les djihadistes de l'organisation État islamique pour empêcher la population de fuir la ville syrienne d'Al-Bab. C'est ce qu'a fait savoir ce lundi l'armée turque. Les insurgés appuyés par l'armée turque assiègent cette ville contrôlée par l'État islamique depuis plusieurs semaines. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.